Seigneur Jésus, on te remet cette matinée entre les mains. Je te prie que tu puisses vraiment être avec nous ce matin et que tu puisses nous encourager, Seigneur, de l'œuvre que tu es en train d'accomplir ici au sentier. On te remercie pour la générosité de tous ceux qui ont participé ou qui vont participer à la campagne des paniers de Noël. Et on te remercie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici ce matin, peut-être depuis peu longtemps, depuis quelques temps avec nous, mais qui considèrent servir, s'impliquer dans un ministère le dimanche matin. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être excité puis encouragé de voir ce que tu fais et de pouvoir avoir le privilège de participer avec toi, de participer ensemble à l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir abondamment cette Église et que tu puisses toucher nos cœurs ce matin par ta parole. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, ce matin, on débute une nouvelle série, notre série de Noël. Donc, dans les trois prochaines semaines, on va avoir ensemble des messages où on va parler de la joie de Noël. Plus spécifiquement, avec des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue d'un sauveur qui va venir. Et c'est de cette joie-là qu'on veut parler. Comment ça a été raconté aux gens qui ont eu la promesse qu'un jour, un sauveur allait venir sur la terre. Et puis, ce matin, on va parler de la joie de l'attente. Qui aime attendre? OK, c'est pas juste moi, hein? Attendre en ligne, attendre les résultats d'un examen, attendre pour savoir ce que je vais avoir comme cadeau de Noël, qui m'a pigé dans mon échange de famille, attendre pour le voyage que j'aimerais faire un jour, attendre qu'une promesse qu'on m'a faite se réalise. Attendre que Dieu réponde à mes prières. Attendre que ma situation s'améliore. Attendre, c'est le fun. Non? Ce matin, j'aimerais nous convaincre. J'ai besoin de me convaincre aussi. J'aimerais nous convaincre qu'il y a beaucoup de joie dans l'attente. En fait, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de joie dans l'attente. Ce matin, alors qu'on se prépare ensemble pour Noël, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble qu'il y a une joie profonde que nous pouvons vivre dans l'attente. Puis ça, c'est le gars impatient et curieux, le plus curieux que ma femme connaît, qui vous dit ça. Mais ce matin, on va voir ensemble que la joie de l'attente est fondée dans un témoignage solide de ce que Dieu a fait pour nous et dans l'espérance glorieuse de ce qu'il va faire à la fin. Et pour ça, on va aller voir un texte ensemble dans le livre d'Ésaïe. On va lire le chapitre 12 ensemble. Ésaïe, le chapitre 12. « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. Faites appel à lui. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie. Exprime ton allégresse. Habitant de Sion, en effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Ce jour-là, le texte qu'on vient de lire ce matin, c'est un texte grandiose. un texte qui nous pointe vers un moment merveilleux dans l'histoire de l'humanité. Le moment où le Sauveur du monde va venir et va vaincre le péché. Il va vaincre la mort et où il va régner pour toujours. Ce moment où Dieu va régner et où son peuple va l'adorer, le louer pour toujours. Ce jour où chaque individu va reconnaître et célébrer Dieu. Ce jour-là, il n'y aura plus de malheur, plus de honte. Tout le monde va être en sécurité. Tout le monde va porter son regard vers Dieu. Et tout le monde va chercher à célébrer Dieu, à célébrer son nom pour toujours. Ici, Isaïe parle d'un jour qui va venir. Et en parlant de ce jour-là, il parle de quoi? Il parle de la venue du Messie. Ici, on regarde ce qu'Isaïe est en train de dire. On a l'impression, selon notre expérience à nous aujourd'hui, en 2024, presque 2025, que Isaïe parle certainement de deux moments dans l'histoire. Parce qu'en même temps, il va parler du moment où Jésus va venir sur la terre. Le moment où il va venir mourir. Il dit pas ça comme ça, mais il dit ce jour-là où Dieu va devenir notre salut, notre sauveur. Où on va être appelé à annoncer son nom à tous les peuples. Ce jour où Jésus va venir. Mais il parle aussi de ce moment où il va régner pour toujours et où les humains vont être dans sa présence parfaite. Tous ceux qui vont être là vont reconnaître qui est Dieu et tous ces gens-là vont adorer ce Dieu-là pour toujours. Ils vont lui obéir sans difficulté, sans se détourner de lui, sans être mélangés sur « c'est quoi la volonté de Dieu pour moi ?» C'est d'ailleurs ce qu'Ésaïe va dire au chapitre 11 en parlant de ce jour-là. Il va dire dans Ésaïe 11, 6 et 7, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. » Leurs petits, un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Isaïe nous pointe vers un jour où tout va être parfait et où tous seront en sécurité, en train d'adorer Dieu. C'est une description de la réalité éternelle avec Dieu comme sauveur qui règne sur toute la terre. Et ici, dans Isaïe 12, il parle de faire connaître les œuvres de Dieu sur la terre. Sur toute la terre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors on dirait que d'un côté, Isaïe va parler de ce jour-là où tout le monde va croire en Dieu et tout va être parfait et le règne de Dieu sur la terre va régner pour toujours. Et il parle de ce moment aussi où les êtres humains vont connaître Dieu le Sauveur et ils auront comme mission de partager son nom à toutes les nations. Mais en réalité, ce jour-là pointe vers une seule réalité. Jésus est venu. Jésus a vaincu le péché et la mort. Et tous ceux qui croient en lui sont réconciliés avec Dieu et vont vivre avec lui pour toujours. Tous ceux qui vont reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur, vont déclarer combien ses œuvres sont bonnes et combien Dieu est grand. En réalité, les humains, à ce moment-là, vont vivre comme ils étaient supposés vivre pour toujours, dès le début et pour toujours, c'est-à-dire adorer Dieu et donner toute la gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on semble plutôt vivre dans l'attente de ce moment, alors qu'on est réconcilié avec Dieu, mais pas totalement libéré de la puissance du péché dans notre quotidien. Alors qu'on vit encore les effets du péché, la tristesse, la honte, la peur, l'inquiétude. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on a connu ce Sauveur-là, et c'est de cette réalité-là que Isaïe nous parle ici, ce jour-là où vous allez reconnaître que Dieu est votre Sauveur, ce jour-là, on est appelé à vivre comme on va vivre pour toujours. on est appelé à vivre dès aujourd'hui comme on va vivre pour toujours. Alors si dans l'éternité, on va adorer le nom de Dieu, on va reconnaître la grandeur et la toute-puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, on est appelé aujourd'hui à célébrer sa grandeur, à reconnaître qui il est. Oui, à parler de lui, mais aussi à pouvoir reconnaître dans notre cœur qu'il est le roi, qu'il est celui qui règne. On a besoin dès aujourd'hui, dans cette période d'attente, de déclarer quotidiennement à notre cœur que Dieu est le roi, que Dieu règne et qu'il sait ce qu'il fait pour nous. Ce qui nous donne la joie dans l'attente, c'est ce témoignage de son œuvre dans nos vies. Quand on est capable de déclarer « Dieu m'a sauvé. Dieu est mon sauveur. » Ésaïe nous rappelle que si on a besoin d'être sauvé, eh bien c'est parce qu'on a hérité Dieu. Et c'est intéressant ici parce que le prophète parle d'un moment où tous vont célébrer Dieu. Et ici, dans Ésaïe, alors qu'il est en train d'écrire ces lignes, ça ne va pas bien pour le peuple. Le peuple est divisé. Le peuple va être défait dans des différentes guerres. Le peuple est en train de se détourner de Dieu. On peut voir dans Ésaïe, si vous lisez le livre d'Ésaïe, ces messages constants de Dieu qui va sauver son peuple, mais de son peuple qui est détourné de Dieu, qui ne cherche pas Dieu, qui n'a rien, qui n'a pas de victoire à déclarer. Imaginons le peuple en ce moment chanter un chant de victoire comme Ésaïe est en train de leur proposer. Un jour, vous allez célébrer Dieu et vous allez le chanter à toutes les nations. Mais aujourd'hui, le chant que vous chantez impressionnerait personne. Vous vous détournez de Dieu, vous êtes un peuple qui est en train de vivre de l'oppression des autres nations. Ça va pas bien. Il n'y a pas de victoire à chanter. Il n'y a rien à célébrer. Dans ce moment d'attente, la situation du peuple n'est pas vraiment bonne. C'est difficile de trouver raison de se réjouir, d'avoir de la joie. Et le pire, et ce qui cause toute cette difficulté-là, c'est que le peuple est séparé de Dieu. Dieu est irrité parce que le peuple s'est détourné de lui. Et c'est notre situation à nous aussi. Romains 5, 10 nous dit, « En effet, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Avant d'être réconciliés avec Dieu, nous étions les ennemis de Dieu. Et Dieu s'est fait notre sauveur. Dieu a pourvu un moyen de nous réconcilier avec lui pour que la colère devienne sa douceur, sa consolation. Et c'est ce qu'Ésaïe veut célébrer ici. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est notre salut. Et ce qu'on a besoin au plus profond de nous pour nous réjouir dans les moments d'attente, dans l'attente de nos vies, c'est de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Nous rappeler le témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Se rappeler son salut qui est si riche. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce passage. La colère de Dieu envers les pécheurs. Dieu était en colère. Quand on voit qu'on était les ennemis de Dieu, Dieu était en colère. Pourquoi? Parce qu'on s'était détourné de lui. Dieu était en colère. Pourquoi? Parce qu'il nous voyait faire le contraire de ce qu'il nous demandait. La colère de Dieu envers les pécheurs, envers l'humanité qui se détourne de lui, résulte du fait que Dieu déteste le mal. Dieu déteste le mal et il déteste le mal qu'on nous fait et qu'on fait. Il déteste nous voir nous détruire, nous détourner de lui et de voir l'humanité qui est perdue sans lui essayer de faire son bout de chemin sans chercher Dieu. Mais la colère de Dieu vient aussi du fait que Dieu ne tolère pas le mal. Dieu a créé un monde parfait à son image pour qu'on puisse un jour jouir. Jouir de sa présence, jouir de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui était bon. Dieu a créé un monde qui était bon. Il n'a pas créé un monde où on devait souffrir, où on devait trouver ça difficile d'attendre, où il y avait toutes sortes de difficultés dans nos vies. Dieu a créé un monde bon et son désir, c'est qu'on puisse en jouir et être en relation avec lui pour l'éternité et prendre plaisir en Dieu pour toujours. Ça, c'est le désir profond de Dieu quand Dieu nous a créés. Mais Dieu est un Dieu parfait, un Dieu qui ne tolère pas le péché. Donc, ce qu'on a besoin pour être réconcilié avec Dieu, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Et dans son grand amour, Dieu nous a sauvés de la colère de Dieu. Il y a seulement Dieu qui pouvait nous sauver de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et quand Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort, que si on se détourne de lui, on va mourir, alors c'est ce qui doit arriver. Ça prenait un être humain parfait qui n'avait jamais péché, qui avait toujours obéi à Dieu, qui avait toujours cherché à la volonté de Dieu qui allait mourir à notre place. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Dieu nous sauve de la colère de Dieu en envoyant son Fils qui accepte de mourir pour nous. Pour qu'on vive non plus séparé de Dieu, mais qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. Et non seulement réconcilié, comme quand je vois Dieu passer dans la rue, puis là je dis, ah, un jour, j'étais en colère, il était en colère avec moi, on était en chicane, là ça va bien, puis on fait notre chemin. Non, Dieu fait de nous ses enfants. Dieu est notre Père. Dieu nous réconcilie avec lui pour qu'on puisse vivre comme ses enfants bien-aimés qu'il va approuver, qu'il protège, qu'il va garder. Par la foi, on n'a plus besoin d'avoir peur. Par la foi, on a un accès sans fin à Dieu et son salut pour nous. Ésaïe 12:3 dit « Vous puiserez avec joie dans l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. » On a accès à cette source sans fin de salut. Quand on pêche, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand on lutte avec un péché dans nos vies, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Quand on vit une souffrance, que notre situation est totalement difficile, peut-être même invivable, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que la parole nous promet, c'est qu'on peut puiser sans fin à la source du salut. Dieu nous a pardonné, Dieu nous aime et Dieu prend soin de nous. On a accès non seulement à son pardon, qui est la plus grande chose qu'on pouvait avoir, mais on a accès à tout ce que Dieu a pour nous. La sécurité, l'amour. Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu prend soin de nous. On a accès à Dieu en tout temps. Dieu transforme le salut et il nous donne la force. Dieu nous donne la force et la joie à travers son salut. Cette attente, ce moment dans l'attente, ce n'est pas une attente passive où j'attends que quelque chose arrive ou que je fais juste attendre que le temps passe. Mais c'est une attente active où on peut persévérer dans les moments difficiles. Mais aussi où Dieu nous donne la force de lui obéir et de célébrer son nom. Dieu nous donne la force. Il y a des situations dans nos vies qu'on peut vivre où les forces nous manquent, où on a l'impression que je ne peux plus y arriver. Mais Dieu nous donne la force de persévérer, de tourner nos regards vers lui et même de voir qu'il y a quelque chose de beau et de grand au-delà de nos circonstances difficiles. Lorsque cette assurance entre dans nos cœurs, on voit que même les expériences effrayantes de la vie peuvent nous mener plus profondément dans notre salut, peuvent nous mener à comprendre davantage l'amour de Dieu pour nous. En 1993, il y a 3 missionnaires de New Tribe Mission qui ont été enlevés en Colombie. Pendant huit ans, leurs familles et amis se sont inquiétés. Ils ont prié pour eux. Puis ils se demandaient jour après jour, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Finalement, on a appris que les 3 missionnaires étaient morts. Et Dan German, qui était le directeur de New Tribe Mission à l'époque en Colombie, a dit dans une interview que leurs prières avaient évolué au cours des années, au cours de ces longues années d'attente. Au début, ils priaient pour que Dieu ramène les hommes sains et saufs. Et ils ont fini par prier, « Dieu, même si nous ne saurons jamais ce qu'il est advenu d'eux, tu seras toujours Dieu. » Et voici la phrase qu'il a ajoutée dans l'entrevue que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il ajouta qu'il y avait un sens très particulier à savoir que Dieu est suffisant. Même lorsque le miracle ne se produit pas, mais que la merveille de sa suffisance est toujours présente. Parfois, le miracle se trouve dans le fait que, malgré le fait que ça ne va pas bien, malgré le fait que Dieu ne répond pas à ma prière, malgré le fait que je souffre encore aujourd'hui, peut-être même plus que je souffrais hier, Dieu me rappelle qu'il est là, qu'il est Dieu et qu'il prend soin de moi. Le fait de ne pas se détourner de Dieu dans ces moments-là, le fait de s'accrocher à Dieu et de croire encore plus profondément que Dieu est Dieu dans ces moments d'attente, produisent en nous une joie qui est au-delà de nos circonstances. Ça nous aide à voir qu'il y a plus grand, qu'il y a meilleur et qu'il y a que notre plus grande situation, notre plus grand problème, notre plus grande souffrance a été réglée. Et dans ces moments d'attente, on peut goûter à Dieu comme on ne pourrait jamais goûter à Dieu autrement. Dieu est avec nous quand ça va bien et Dieu est avec nous quand ça va mal. Donc, la joie de l'attente vient de ce témoignage de Dieu qui se rappelle de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon sauveur. Ce témoignage de Dieu qui nous rappelle comment il a adressé notre plus grand besoin, celui d'être réconcilié avec lui. La joie de l'attente est fondée dans ce témoignage de que Dieu est notre sauveur, mais elle est aussi fondée dans l'espérance glorieuse de ce qu'il va faire à la fin. Ce que Dieu fait en nous quand on est capable de voir que Dieu est Dieu, que Dieu est là dans nos circonstances, eh bien, on peut regarder au-dessus de cette montagne de souffrance, de cette vie peut-être difficile où il y a des difficultés, où il y a de l'incertitude, et on peut se réjouir aujourd'hui. On peut se réjouir aujourd'hui parce qu'on sait que demain va être meilleur. Parce qu'on sait que demain va être meilleur. On ne sait pas quand demain va venir, mais on sait qu'un jour, le meilleur va venir. Et c'est cette espérance qui est en nous qui nous permet d'être un peuple joyeux, un peuple rempli d'espoir, un peuple qui croit que Dieu peut encore changer des gens aujourd'hui, que Dieu peut me changer aujourd'hui, que Dieu peut changer les gens autour de nous, que Dieu peut nous guérir, que Dieu peut prendre soin de nous. Et quand Dieu ne nous guérit pas, que Dieu nous fait du bien quand même. Cette espérance fait de nous un peuple joyeux. Le meilleur est à venir. Notre histoire n'est pas finie. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile pour l'être humain de vivre avec une espoir incertaine, de vivre en ne sachant pas ce qui va venir. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est vrai qu'on ne connaît pas ce qu'on va vivre dans le futur. Mais on sait qu'un jour, cette histoire, Dieu l'a gagnée. Et c'est ces moments, c'est cette réalité-là qu'Ésaïe nous parle ici. Jésus est venu dans le passé, mais il a vaincu la mort pour qu'un jour on puisse vivre parfaitement sans la présence du péché dans nos vies, sans la douleur, sans la souffrance, sans l'insécurité. on va vivre parfaitement avec lui dans un monde parfait où tous vont être dans la joie pour toujours et vont le célébrer. Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. En 1970, les membres de l'équipe de football de l'Université Marshall en Virginie de l'Ouest, aux États-Unis, a été victime de l'un des plus grandes tragédies de l'histoire sportive. Alors que l'équipe revenait d'un match de football qu'ils venaient juste de perdre, ils sont revenus de la Caroline du Nord et juste avant d'atterrir à l'aéroport de Huntington, l'avion s'est écrasé. 75 personnes à bord sont décédées. 37 joueurs, les membres de l'équipe d'entraînement, l'équipe de les gens qui sont le personnel de l'avion, des membres de la communauté qui avaient joint l'équipe sur la route. Une tragédie qui a frappé toute une communauté universitaire, une ville aux États-Unis au complet qui était chamboulée. Leur monde s'est arrêté à ce moment-là. Une tragédie pour les proches et pour tous les gens qui étaient autour de cette université et de cette équipe de football. Probablement que dans les jours qui ont suivi la tragédie, des sentiments de culpabilité se sont installés chez les joueurs qui étaient blessés et qui n'ont pas fait le voyage avec l'équipe. Pourquoi nous, on est encore vivants? Peut-être qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, de questionnement chez les membres des familles qui ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. On peut s'imaginer la souffrance profonde que les gens vivaient. Une détresse inimaginable. On sait que quand la souffrance nous accable, l'attente n'est pas agréable. C'est pas le fun d'attendre. À l'époque, l'université avait décidé qu'il allait mettre fin au programme. C'était impossible de mettre une équipe sur pied pour l'année suivante. Il y avait des règles à l'époque où les joueurs de première année ne pouvaient pas jouer, donc c'était impossible. Mais il y a des gens, surtout les anciens joueurs, les étudiants, les gens de la communauté de Marshall ont décidé, nous, on aimerait ça que le programme revive. Puis il y a des gens qui disaient, bien, on peut pas jouer, puis perdre, puis déshonorer l'équipe, puis vraiment comme d'aller s'asseoir dans les estrades, puis de juste voir ce spectacle et désolant qui va nous rappeler la tragédie, la perte des êtres chers. Puis finalement, il y en a qui disaient, non, on a besoin de jouer pour honorer l'équipe. Et la raison pourquoi je vous raconte cette histoire-là, c'est que dans le film où nous sommes Marshall, qui raconte cette histoire-là de la reconstruction de l'équipe, il y a une scène où l'entraîneur actuel de l'équipe, le nouvel entraîneur de l'équipe, parle avec un vieil entraîneur, un des survivants, qui n'était pas trop certain de vouloir participer à la reconstruction de l'équipe. Et puis dans cette scène, l'entraîneur va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il va voir l'entraîneur puis il va dire, c'est vrai qu'habituellement, gagner dans le sport universitaire comme ça, gagner, c'est tout ce qui compte. On travaille pour faire gagner l'équipe. Toute notre vie, c'est pour que l'équipe gagne. Toutes les équipes sportives veulent gagner. Gagner, c'est tout et il n'y a rien d'autre qui compte. Mais parfois, gagner, c'est pas important. Parfois, ce qui compte, c'est de jouer. D'être présent le samedi lors des matchs et de faire vivre le programme. On va jouer, on va pas être bon. Mais un jour, pas aujourd'hui, pas demain, probablement pas cette saison, mais un jour, toi et moi, on va se réveiller et parler encore avec l'autre coach et on va réaliser que comme dans tous les sports, dans toutes les équipes, gagner va être à nouveau ce qui est de plus important pour l'Université Marshall. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de jouer la game, de jouer le match. C'est ce jour-là qu'on va les honorer. Un jour, ce jour-là, un jour pour l'Université Marshall, c'était dans les années 90, alors qu'ils ont gagné 2 championnats nationaux de Division 2. Un jour, c'est pour nous, c'est ce jour-là. Parce que ce qui compte, c'est de jouer, de se présenter pour le match. Jouer avec une vision qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Jouer avec la confiance de la victoire, parce qu'on sait que le meilleur est à venir. Jouer pour quelqu'un qui nous a procuré la victoire et qui, un jour, va nous faire jouir de cette victoire-là pour toujours. Le match, c'est la vie. La victoire, c'est la vie avec Dieu pour toujours. La joie dans l'attente vient de cette assurance, de cet espoir. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon espoir. Je fais partie de son équipe et le meilleur s'en vient. Pour cette période de Noël, je nous souhaite, Église Le Sentier, de goûter à la joie de l'attente. Cette joie qui dépasse nos circonstances, qui nous rappelle que ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu va faire. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire ensemble, se souvenir. Alors qu'on est dans l'attente, on veut se souvenir ce que Dieu a fait pour nous. On veut partager ensemble le repas du Seigneur. Et Jésus nous dit, à chaque fois qu'on prend ce pain, qu'on prend cette coupe, de le faire en mémoire de lui. De se souvenir le témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Pour se rappeler qui on est en lui. Pour que Dieu puisse nous donner cette joie dans l'attente. Alors, on va chanter un chant ensemble. Les placeurs vont passer les éléments, le pain et le jus. Et on vous invite de prendre le repas du Seigneur si Jésus est ton sauveur. Si tu as cru que Jésus est mort pour toi, que Jésus t'a réconcilié avec lui, on vous invite à prendre le repas du Seigneur si tu veux avec nous te souvenir ce que Jésus a fait pour toi. Si ce n'est pas encore le cas pour toi ce matin, on t'invite à laisser passer et tu peux peut-être venir parler avec quelqu'un, un pasteur ou quelqu'un de bienvenue pour pouvoir parler de Jésus avec cette personne-là. On va chanter ensemble.